Il faut jamais oublier qu'une entreprise, c'est un projet collectif et on a d'autant plus envie d'y contribuer qu'on y trouve du sens, qu'on y trouve de la valeur, qu'on y apprend des choses et qu'on a l'impression qu'on met notre énergie, notre intelligence en commun pour quelque chose qui fait sens, quoi.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, votre moment pour plonger dans les entreprises à mission. Mon objectif est simple, que ce concept prenne forme pour vous, qu'il nourrisse vos réflexions pour une entreprise plus responsable et que vous repartiez avec de bonnes pratiques, des écueils à éviter et une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Aujourd'hui, je reçois Emery Jacquia, président de la CAMIF, entreprise de vente en ligne d'ameublement. Alors pour qui s'intéresse aux entreprises à mission, le prénom d'Emery est synonyme d'audace, de profondeur d'action, de pari et d'inspiration. C'est pour ça que je voulais absolument que ce soit lui qui participe à l'épisode anniversaire du podcast. Et oui, le podcast a un an. Avec Emery, on a passé 2 heures à discuter et franchement, on a dû se restreindre un petit peu. Mais clairement, c'était impossible de vous livrer tout en un seul épisode. Donc voici la première partie. D'ailleurs, je me dis que je pourrais répéter l'opération à l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans cette première partie, on est revenu sur la reprise et le développement de la CAMIF. Comment en 2009, Emery, à la tête de Mattelsom, fait le pari fou de reprendre cette vénérable institution de New York à la barre du tribunal. On parle de fusion et de culture. Emery raconte l'importance de mettre la culture au sens propre et figuré au cœur d'un projet de fusion. Il explique également ce pari fou qu'il a fait du Made in France et aujourd'hui de l'économie circulaire. On parle de triple valeur, une valeur économique pour gagner des points de marge dans l'univers hyper concurrentiel de l'e-commerce, la valeur sociale en créant plus d'emplois en France et la valeur environnementale en limitant l'empreinte environnementale des produits de la CAMIF. On parle aussi de positionnement de marque, de transparence dans la communication et on revient sur la toute première pub télé de CAMIF qui a tout juste 10 ans et pas une ride. Alors je regrette vraiment pas mon choix d'inviter pour ce premier anniversaire. Écoutez tout, vraiment, jusqu'au bout. Il y a un très beau livre à écrire, de très belles histoires à raconter et de l'inspiration à prendre. Et pour vous, je l'espère, un beau cadeau à vous offrir pour suivre ce podcast. Merci beaucoup. Bonne écoute de cette première partie. Et oui, la seconde partie arrivera la semaine prochaine. Sans plus attendre, je laisse place à notre échange. Bonjour Emery.
Bonjour Vivien.
C'est un vrai plaisir de t'accueillir dans le podcast pour son premier anniversaire. Ce premier anniversaire de la machine à sens. Et pour un podcast sur les entreprises à mission, t'avoir pour fêter ses 1 an, c'est quand même le meilleur cadeau qu'on peut offrir aux auditeurs.
Eh ben, joyeux anniversaire.
Mais bon, avant que tout le monde ne comprenne pourquoi je dis ça, je vais te faire la traditionnelle présentation, présentation de l'invité. Donc Emery Jacquia, tu es, je dirais, un homme de conviction. Alors des convictions un peu folles parfois, en créant Mattelsom en 95 à 23 ans pour vendre des matelas par correspondance, ce qui est une évidence aujourd'hui, était probablement une quasi-folie à l'époque. Pari fou aussi de reprendre CAMIF à la barre du tribunal en 2009 et en faisant des paris assez audacieux déjà en voulant redorer le blason d'une marque historique sur le déclin, mais également partir sur la stratégie de l'éthique, du durable et du made in France à une époque où tout ça n'était pas du tout vendeur. Et un homme de conviction également parce que tu affirmes de longue date que l'entreprise doit être dirigée autrement et doit jouer un rôle contributif dans la société. Alors ça, c'est une version 2023, mais c'était peut-être pas avec ces termes-là, mais en tout cas, c'était déjà l'objectif. Ça t'a amené à servir un peu de poisson pilote pour les travaux qui ont abouti à la création du cadre de société à mission et forcément à jouer un rôle pivot dans la création de la communauté des entreprises à mission dont tu es désormais le président et tu joues d'ailleurs, je dirais, le rôle d'évangélisateur en chef de la société à mission avec une verve inimitable qu'on va entendre dans quelques instants. Est-ce que tu vois des éléments à corriger, amender, rajouter ?
Merci pour cette présentation. Je dirais que j'ai eu la chance de naître dans une famille où j'ai vécu une enfance heureuse avec beaucoup d'amour autour de moi et d'avoir un père dirigeant d'entreprise et une mère artiste. Et probablement ces deux cerveaux, je les ai, le cerveau droit et le cerveau gauche, et ça m'aide à être un entrepreneur créatif. Et je pense que c'est vraiment une qualité qui est importante aujourd'hui pour inventer une nouvelle économie. d'être créatif.
Et ben on va voir tout ça, parce qu'effectivement, c'est assez... je pense que la combinaison entre cerveau gauche, cerveau droit, côté artiste, côté entrepreneur, explique pas mal de choses.
Et puis j'ai eu la chance aussi, puisque je parle de l'amour, j'aime bien parler de l'amour, d'être entouré par une femme qui m'a accompagné dans ma... et qui m'aime et que j'aime énormément, et qui m'a accompagné dans mon aventure entrepreneuriale, qui n'a pas été simple tous les jours. Et je suis également papa de 3 enfants que j'aime et qui m'ont construit aussi en tant qu'homme.
Eh bien, on les salue également. Alors, parlons un petit peu de la Camif, notamment depuis la reprise, parce que la Camif, c'est une longue histoire, hein, mais parlons de la Camif au moment de la reprise. Si tu devais expliquer un petit peu la Camif d'avant et la Camif d'après, et la manière dont tu as voulu insuffler une nouvelle dynamique, ce serait quoi les ingrédients principaux que tu citerais?
La Camif, c'était une coopérative qui avait été créée en 47 par des instituteurs. Hein, c'est la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France. C'est ça que ça voulait dire, la Camif, qui s'était regroupée après-guerre pour se rééquiper sous une forme de caisse de solidarité. Donc c'était extrêmement innovant et tout de suite avec un modèle de vente par correspondance, parce que la seule façon de toucher tous les instituteurs partout en France, c'était le catalogue papier que tous ceux qui ont connu la Camif ont vu traîner dans le salon, etc. Et ce qui s'est développé sur ce modèle de vente par correspondance. Et le cœur du modèle économique d'entreprise, c'était ça. Et quand ça... Bon, puis ça a été bousculé par l'arrivée d'Internet à partir du milieu des années 90, 2000. Et puis la boîte connaît des difficultés financières et fait faillite le 27 octobre 2008. Elle a probablement failli pour pas mal de raisons. La première probablement liée à l'ouverture à toutes les... Puisque c'était initialement pour les instituteurs, par les instituteurs, et puis dans les années 90, ça s'est ouvert à tout le monde. Et ils ont un peu perdu leur âme, je pense, en copiant un peu ce que faisait la vente par correspondance, la Redoute, les Trois Suisses. Donc ils ont commencé à faire des promotions, de plus en plus de promotions pour attirer de nouveaux clients. Et ils ont perdu leur âme parce qu'en fait, les instituts, ils s'attendaient à ce qu'ils aient le bon prix, en fait, parce que c'était une coopérative, donc ils n'avaient pas besoin de promotion, ils avaient besoin du prix auquel la coopérative pouvait acheter directement auprès des fournisseurs. C'était ça le principe initial. Ils ont un peu perdu leur cœur de consommateur, ils ont perdu du sens, ils ont perdu des valeurs qui étaient fortes. Et il y a une autre chose qui, moi, m'a interpellé, parce que je me dis, mais comment une société qui appartient à ses sociétaires disparaît? Parce qu'au fond, ça devrait jamais arriver. Je me suis vraiment posé cette question, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils ont disparu, c'est parce qu'ils se sont jamais pensés disparaître, au fond. Et ils se sont probablement jamais pensés fragile. Ils se sont jamais pensés vulnérables. Et je pense que ce savoir fragile, savoir qu'on peut disparaître, parce qu'une entreprise, c'est fragile, une organisation, c'est fragile, un collectif d'êtres humains, c'est fragile, une démocratie, c'est fragile, un pays, c'est fragile, voilà, la paix, c'est fragile, nous sommes fragiles. Et ce savoir fragile, c'est être plus résilient, c'est se penser demain, toujours, se projeter. Comment on peut s'adapter, comment on peut se réinventer en permanence, parce que l'entreprise, c'est un organisme vivant, et si ça se réinvente pas en permanence, ça meurt assez vite, en fait. Et je crois que c'est ce qui les a probablement un peu entraînés dans cette chute, sachant que je leur jette pas la pierre, hein, parce que changer de modèle économique et passer du catalogue papier qui faisait 800 pages et qui distribuait 1 million d'exemplaires chaque année à un modèle où c'est Internet qui finalement devient le cœur de modèle d'entreprise, c'est vraiment pas simple. Hein. Ouais. Et c'est la première chose que j'ai finalement apporté, c'est dire, de toute façon, le modèle économique d'entreprise, il est mort. Aux États-Unis, en 95, quand j'ai démarré Mattelsum, il y avait déjà plus de gros catalogues papier. C'était déjà tous disparus. Et du coup, si on relance Camif, c'était pas pour faire un catalogue papier, c'est pour en faire un site e-commerce, parce que le commerce, il a basculé du papier à l'Internet. Mmh. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est je dis, ben si on relance Camif, il faut réinventer Camif pour en faire quelque chose qui fait du sens par rapport à ses valeurs historiques, qui fait du sens pour les clients et qui est différenciant. Et donc là, je me dis, mais il y a une opportunité incroyable parce qu'il y avait des valeurs fortes dans cette marque pour en faire un acteur différenciant de ce qu'a fait la grande distribution, qui depuis 25 ans a toujours été cherché plus loin, moins cher ailleurs. Et moi, ma conviction, c'est qu'on pouvait justement prendre le parti inverse et essayer de trouver le plus localement possible des produits de qualité, peut-être qui seraient plus chers, mais qui auraient des clients, et en particulier les instituteurs de la CABUF historique qui faisaient le, bah, qui seraient sensibles à ça. Et donc c'est le pari qu'on fait en 2009 de réinventer le modèle pour relancer CABUF sur Internet avec une proposition de valeur autour de la qualité des produits, donc moins de produits, recentrés sur l'équipement de la maison parce qu'il y avait eu aussi des diversifications pas très heureuses. Ils sont passés par le textile, habillement qui a un peu ringardisé avec le total look de l'instit là, dont la marque portait un peu des stigmates, on va dire. Ouais. Et recentrer donc l'offre sur le cœur de métier historique de CABUF, qui était l'équipement de la maison, de miser sur la fabrication locale. Et ça, c'est vrai qu'en 2009, tu as dit tout à l'heure, mais le Made in France, c'était super ringard, en fait. Ouais. Mais pour nous, ça a été la façon de réengager tout l'écosystème, enfin une bonne partie de l'écosystème de CABUF, de fabricants, qui avaient perdu de l'argent au moment de la chute de CABUF. Et quand on leur dit, on relance CABUF, c'était un petit moment de solitude dans la vie d'un entrepreneur, quand tu te retrouves avec 300 personnes dans une salle, qui ont tous perdu de l'argent, qui sont bien remontés, qui leur dit, on relance CABUF, c'est pas simple. Mais quand on a expliqué ce qu'on voulait en faire, tout de suite, on a eu de l'adhésion. Parce que finalement, il y avait personne qui défendait le savoir-faire français, les métiers qui se cachent derrière tous les produits qu'on vend sur CABUF.fr. Et là, ça a permis de réengager le lien et la confiance avec ces fournisseurs qui ont dit finalement, oui, ça sera plus la CABUF comme avant. On va jamais retrouver probablement les volumes qu'on avait avant parce qu'il y avait 20 magasins, il y avait 1 million de catalogues dans la nature, plus le site internet. Donc nous, on relançait que sur internet, que sur le Made in France et que sur l'équipement de la maison. Forcément, c'était un périmètre plus petit, plus restreint, mais avec une proposition de valeur qui faisait tellement sens et tout le monde avait envie d'y croire, en fait. Voilà. Et ça a permis de redémarrer.
Non, c'est intéressant parce que comme tu le dis, enfin 2009, Made in France, tout ça c'est un peu ringard à l'époque. Donc j'imagine qu'il y a eu quand même des très gros défis pour relancer cette dynamique-là. Et ça montre que quand on explique bien un projet, on arrive à embarquer aussi. Et justement parce que c'est un défi que d'autres entreprises peuvent rencontrer même encore aujourd'hui, ce côté made in France, de relocalisation, on en parle de plus en plus, ou de réindustrialiser, c'est pas forcément relocaliser, d'ailleurs c'est ouvrir de nouvelles usines en France, pas forcément de relocaliser des activités. Toi, comment est-ce que, à partir de ton expérience, tu peux dire voici un petit peu les bonnes recettes pour soit travailler avec les bons fournisseurs ou identifier les bons fournisseurs, parce que c'est pareil, il y a cette notion aussi de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Comment est-ce que ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure, parce que j'imagine que c'est pas juste t'as dit ok, ils étaient tous pour et puis c'est parti, puis tout a été rose. J'imagine que même encore aujourd'hui c'est un défi, d'ailleurs.
Oui, c'est toujours un défi. Ça prend du temps. Je pense que la première des choses qu'on peut se dire, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Bon, pour nous, ça a été un choix de redémarrage. Donc, on a écarté tous les fournisseurs qui rentraient pas dans notre référentiel, hein, sur qu'on appelait CQFD à l'époque, le choix de la qualité du français et du durable. Donc, si on n'avait pas des choses à dire sur la qualité du produit ou sur sa fabrication locale ou sur l'aspect durable du produit, bah, on écartait le fournisseur. Sachant que c'était pas non plus fait du jour au lendemain, on avait des fournisseurs qui fabriquaient des produits de très grande qualité avec une démarche responsable, mais à l'autre bout de la planète. Donc, mais ça, progressivement, on a restreint à la promesse du local, puisque c'est au cœur de notre mission aujourd'hui de défendre notre consommation responsable. Ensuite, il faut embarquer par le sens. Donc, les fournisseurs, quand ils ont compris ce qu'on voulait faire et quand ils ont compris qu'on allait aller assez loin, c'est-à-dire qu'une des premières innovations qu'on lance sur CABUF.fr, c'est qu'on donne la possibilité aux internautes, donc aux clients, de choisir leurs produits en fonction de critères géographiques. On peut rechercher sur CABUF par pays, et puis par région, puis par département. On peut savoir d'où vient le produit, dans quelles conditions sociales, environnementales il a été fabriqué. On fait des vidéos reportages au cœur des usines. Et ça, quand on lance ça en 2010, et qu'on dit à nos fabricants, on va venir vous visiter dans les usines pour faire des vidéos reportages, Il y a personne qui voulait nous accueillir. C'était niette, pas question de découvrir les secrets de fabrication. Et j'allais vouloir dire, vous n'êtes pas dans une industrie particulièrement de secrets de fabrication incroyables. On vend du meuble, on vend de la literie, on vend du linge de maison. Et moi, je crois beaucoup à la vertu de la transparence parce qu'en fait, le consommateur aujourd'hui, il veut activer son pouvoir d'achat pour qu'il ait du sens, pour redonner du sens à son achat. Il veut activer son pouvoir d'achat pour favoriser l'économie locale parce qu'il a compris que l'économie locale, bah, c'est des emplois en France, que c'est moins de kilomètres parcourus et que du coup, c'est bon pour les enjeux sociaux et pour les enjeux environnementaux. Donc ça, c'est bien. Et ça, on a essayé de l'expliquer aux fabricants, qu'il y a de la vertu à la transparence. Ça a pris beaucoup de temps. La première année, on a fait 3 vidéos des coulisses de la fabrication. 3 fabricants qui ont accepté de jouer le jeu. En un an, ils ont fait 100% de croissance. Donc, tout le monde s'est passé le mot en disant, en fait, ça marche bien la vidéo des coulisses de la fabrication parce que les gens, ils n'achètent plus un produit aujourd'hui. Ils achètent une histoire. Ils veulent savoir tout derrière le produit qu'ils achètent. Comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales, quelle est la démarche du fabricant, à qui j'achète. Et donc, ça veut dire aussi savoir tisser un lien très fort avec ces fabricants, de bien les connaître. D'aller leur rendre visite. Hein. C'est ce qu'on a fait quand on a commencé le tour de Made in France en 2014, où on invite nos clients et nos collaborateurs à visiter les fabricants. On fait des visites d'usine, on échange avec les ouvriers, on découvre tous les savoir-faire et les métiers qui se cachent derrière les produits qu'on vend. On déjeune ensemble. L'après-midi, on travaille en atelier créatif. Donc, on apporte de la valeur aussi parce qu'on invente les produits de demain et on fait travailler ensemble des ouvriers, des clients, des collaborateurs. Ça, nos fournisseurs, ils n'ont jamais fait ça. Et généralement, leurs clients, ils les appellent les donneurs d'ordre. Bah, hein, ils arrivent avec des ordres, les clients. Ils disent, vous allez fabriquer comme ça, et vous allez me sortir tel prix, et voilà comment vous allez faire. Donc, vous êtes complètement sous-traitant. Et la relation qu'on a construite avec nos fournisseurs, elle est très différente, et elle a créé de la valeur partagée, en fait, pour nous, pour nos clients, pour le fournisseur. Quand on parle en 2013 d'éco-conception à nos fournisseurs, ils savent pas ce que ça veut dire. Et là, on fait de l'information, on fait de la sensibilisation, on forme nos équipes et les fabricants. Là, cette semaine et la semaine dernière, on a un webinaire. Et la semaine prochaine, on a encore un webinaire avec nos fabricants pour parler d'éco-conception, d'économie circulaire. C'est chouette. Ça, personne ne fait ça avec eux. Donc, c'est une façon de les engager, de créer une relation. Parce que il faut jamais oublier qu'une entreprise, c'est un projet collectif. Et on a d'autant plus envie d'y contribuer qu'on y trouve du sens, qu'on y trouve de la valeur, qu'on y apprend des choses et qu'on a l'impression qu'on met notre énergie, notre intelligence en commun pour quelque chose qui fait sens, quoi. Et au fond, ça a été une façon d'attirer des fabricants nouveaux, de regagner la confiance des anciens. Et aujourd'hui, on a une telle reconnaissance qu'on travaille aujourd'hui avec 123 fabricants français qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires, qu'on est présent maintenant au Salon du Made in France depuis quasiment l'origine du Salon du Made in France. Donc maintenant, les fabricants viennent à nous. On a même des fabricants de matériaux, d'éco-matériaux, qui viennent nous voir en disant comment je peux et donc là on les met en relation avec nos fabricants parce qu'on développe aussi de plus en plus nos collections propres. Donc tout ça c'est pas fait du jour au lendemain. Il faut savoir créer un lien fort, bien connaître, et c'est les gros enjeux du local, c'est que notre grande différence par rapport à tous les autres distributeurs, c'est que nos fabricants, on les connaît super bien. C'est des amis pour certains, parce que voilà, Agnor, fabricant de matelas avec qui on a fait le projet Timothée, on se voit 4-5 fois par an, on visite l'usine régulièrement, quand on a un reportage d'un journaliste qui veut venir faire un reportage Camif, on va dans son usine et on montre, on est comme à la maison, en fond.
Alors justement, ça permet de, là tu viens de parler du projet Timothée, ça permet de faire la transition avec Camif Édition. Parce qu'en fait, c'est vrai que historiquement, Camif est un distributeur, donc vous distribuez les produits des autres. Mais il y a eu cette volonté de faire un shift en devenant un éditeur de meubles. Je crois que c'est le terme que vous utilisez. Pourquoi en fait est-ce que tu t'es dit à un moment donné non là en fait faut qu'on bouge. D'ailleurs est-ce que c'est toi, parce que je suis pas sûr que ce soit toi tout seul qui ait eu cette idée là. Comment ça s'est fait?
Non mais c'est lié au travail et au chemin qu'on a fait sur la mission. Et quand en 2017 on inscrit notre mission dans nos statuts et que notre troisième objectif de mission c'est faire d'économie circulaire notre standard, bah, ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue produit gamifié et à se dire waouh, il faut qu'on sache comment sont fabriqués ces produits, qu'on se pose davantage de questions sur comment on peut faire mieux avec moins, comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage. Et là, on se dit, en fait, d'abord, ça va être un travail titanesque. On attend que nos fournisseurs fassent de l'économie circulaire, dans 25 ans, on y est encore. Donc, il faut qu'on prenne la main là-dessus. Et l'analyse qu'on fait, c'est finalement, il faut qu'on développe, qu'on co-développe, qu'on construise l'offre Camif de demain avec ce principe de travailler sur l'économie circulaire. Et on peut pas le faire tout seul, on va le faire. On a lancé ce Camifathon qui était un hackathon pendant 3 jours. On a invité des fabricants, des designers, des experts d'économie circulaire, des consommateurs, des collaborateurs Camif, et on leur a donné carte blanche pour imaginer des projets. Ils ont pitché au bout de 3 jours, hein, des gens qui s'étaient jamais rencontrés pour certains 3 jours avant, qui ne se connaissaient pas, ils ont pitché des projets qu'on a accompagnés ensuite pendant 9 mois pour sortir les premières collections de Camif Édition. Et puis en fait, tout ça, c'est d'une année sur l'autre, c'est déployé et on est en train de changer de métier. Sous l'impulsion de la mission, chose qu'on ne savait pas du tout avant finalement qu'on ait abouti à la mission, et de passer de ce métier historique de Camif, hein, un métier de distributeur, de sélectionneur avec des chefs de produits qui font un travail de sélection sur des critères rigoureux, mais sur des catalogues de produits existants chez les fabricants, à un métier d'éditeur où on co-développe des produits originaux qui répondent à notre mission et qui créent une valeur économique pour nous, une valeur économique pour nos fournisseurs, une valeur sociale et une valeur environnementale. Et là, Timothée, c'est exactement ça. C'est 4 ans de travail de R&D avec et fruit d'une coopération, parce que je crois aussi que l'économie circulaire, c'est pas tout seul, c'est forcément à plusieurs. Voilà. C'est forcément au niveau local, donc ça nourrit aussi notre engagement sur le local. Et voilà, et c'est le fruit d'une coopération d'une start-up qui fait du recyclage de matelas à Flaviac en Ardèche, un éco-organisme, un institut technique technologique de l'ameublement français, et puis un fabricant à Niort de matelas. Et tout ça, on arrive à mettre au point le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, avec un bloc de mousse qu'on fabrique à partir de vieux matelas recyclés. C'est une vraie fierté, et ce produit, il est assez emblématique, mais on en a plein d'autres, mais ouais. De comment la mission transforme le métier, comment elle transforme notre offre produit, donc c'est vraiment au cœur de l'offre, hein, c'est pas à côté, tout ça. Et commence à créer une triple valeur économique, parce que ça, cette stratégie de développement de l'offre spécifique, exclusive à Camif, en marque propre Camif ou Camif Édition, nous a fait gagner presque 7 points de marge en l'espace depuis 2017. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et dans un environnement qui est méga concurrentiel, je fais pas de dessin, ouais. Mais ouais. Le e-commerce, c'est
pas tant. Surtout dans l'ameublement de plus en plus. Oui, ouais.
Et donc ça protège les marges également de nos fabricants, c'est important parce que sans nos fabricants on n'est rien. Donc et si on veut que nos fabricants soient encore là dans 10 ans, il faut aussi qu'ils gagnent leur vie. On a vu disparaître des fabricants français parce qu'on a on est quand même là depuis 2009 et j'en ai vu aussi avant parce qu'avec Mattelsom j'étais là depuis 95 donc j'en ai vu beaucoup disparaître. Et c'est vraiment chouette de se dire finalement par l'innovation produit sur des enjeux comme l'économie circulaire, avec un peu de design, on peut arriver à recréer de la valeur. Et puis c'est une valeur sociale puisqu'on a pu mesurer à travers une étude d'impact quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois en France, et une valeur environnementale. Là, on vient de sortir les premières analyses de cycle de vie, les ACV des produits, notamment Timothée ou du canapé fabriqué là aussi à partir de cette mousse, parce qu'on la diffuse, cette mousse magique, dans tout notre écosystème de fabricants qui utilisent la mousse, en le disant plutôt que d'utiliser la mousse issue du pétrole, utilisez celle-là. Et donc là, on a sorti canapé Olivier, on a montré ça au salon du Made in France récemment, pareil avec cette mousse issue du recyclage de vieux matelas. Passer quand même 42% d'émissions de CO2 en moins qu'un matelas traditionnel ou qu'un canapé traditionnel fabriqué à partir de mousse issue du pétrole. Et ce qui est aussi passionnant de voir, c'est que Et ça, les crises sont des révélateurs, en fait, tout ça. Là, la crise qu'on traverse en ce moment avec une inflation extrême sur les matières premières, ouais. Le bois, l'acier, la mousse, ça a flambé, hein. C'est x2, x3 pour certains.
C'est hallucinant.
Avant la crise, ce matelas Timothée, il coûtait plus cher à produire, parce que c'est l'économie circulaire, bah, ça coûte cher, hein, c'est un processus qui est, que le matelas traditionnel. Et aujourd'hui, bah, c'est l'inverse.
Ben oui, de fait.
Donc, c'est vraiment bien parce qu'on arrive à prouver qu'on peut réconcilier finalement l'impact social, environnemental et l'enjeu économique, la marge et la profitabilité. Donc, c'est une belle démonstration qu'on a réussi à faire. Mais là aussi, ça s'inscrit sur le temps long, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a revu à peu près 60% de notre offre sur les principes de l'éco-conception. Donc, on a encore du chemin, c'est pas fini. Mais notre vision n'est pas d'aller à 100% parce qu'on n'aura pas 100% de produits Camif et Camif Edition, qu'on travaille aussi avec des marques, je prends le mobilier de jardin, une marque comme Fermob, une marque assez engagée sur Made in France, sur l'éco-conception. Bon, on va pas réinventer Fermob, hein, c'est très joli. Donc, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ça aura toujours sa place sur Camif.fr. Voilà. Mais c'est bien. Ça permet aussi de tirer vers le haut nos fabricants en termes d'innovation. C'est notre cinquième objectif de mission d'ailleurs, transformer l'entreprise et participer à la réinvention de notre filière. Donc là, on réinvente notre filière. Mmh. Et puis, on n'a pas fini parce qu'on a encore beaucoup de choses. Voilà, on va lancer cette année un nouveau service de location qui va transformer finalement, si ça fonctionne, la façon dont on achète une chambre bébé ou chambre enfant. Parce que voilà, les jeunes parents, la chambre bébé, elle a une durée de vie assez limitée. Alors que nous, on va pouvoir faire plein de cycles dans différentes familles avec la même chambre bébé, à qui on va offrir une deuxième, troisième, quatrième, cinquième vie. Et ça, c'est un nouveau modèle économique d'économie circulaire. Lié aussi à la mission, où on réinvente la filière, parce que finalement, peut-être que demain, on va acheter du meuble très différemment qu'aujourd'hui.
Ouais, la fameuse économie de la fonctionnalité.
Oui, absolument.
On reviendra sur justement la manière dont ça se fait progressivement et que c'est pas un big bang du jour au lendemain, tout doit changer. Et justement, pour montrer aussi que culturellement, il y a pas mal de choses à changer, etc. Là, on revient quelques années en arrière, hein, de fait. Camif et Mattelsom viennent de fusionner. Plutôt, Mattelsom a racheté Camif. Une fusion, c'est jamais très simple. Culturellement, c'est ça passe ou ça casse. Hein, donc, une bonne fusion, généralement, s'appuie sur une culture forte, sur de nouvelles synergies à créer. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu cette expérience qui, je l'ai entendue plusieurs fois, mais à chaque fois que je l'entends, je me dis « waouh ». C'est quand même assez génial. C'est cette expérience, je sais pas si on peut l'appeler une expérience d'ailleurs, mais en tout cas, ce travail que tu as mené avec Anne-Laure Maison. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait et les bénéfices que tu as pu en retirer, ou même plutôt que toute l'entreprise a pu en retirer?
En fait, en 2008-2009, c'est un peu le choc des cultures. moi, je débarque de Paris. Enfin, on était installé à Nanterre avec une culture très start-up. Hein. Moi, j'étais encore jeune à l'époque.
Tu l'es encore.
C'est gentil. tu vois, une boîte dans l'internet qui a démarré en 95. Et j'arrive en recrutant d'anciens de la Camif qui ont une culture pyramidale avec 20 ans de culture d'entreprise où quand je visite la première fois les bureaux, ça me fait peur, quoi. J'ai vraiment peur. Hein. Je visite des 100 000 mètres carrés de bâtiments, architecture assez stalinienne, que des petits bureaux cloisonnés, de la moquette au mur, des grands couloirs sombres et une grande tour avec dans les étages supérieurs les bureaux pour la direction et un code pour monter dans l'ascenseur. Donc là, tu comprends assez vite pourquoi l'entreprise a eu un tout petit peu de mal à gérer l'agilité avec agilité le virage de l'internet. Et je dis bon c'est affreux, donc j'ai pas du tout envie de ça. On s'installe dans le magasin Camif, qui est un grand open space qui faisait 10 000 mètres carrés. On s'est mis dans un endroit qui n'en faisait que 3 000 pour pas se sentir trop voilà. Et pas une cloison, même pas dans la salle de réunion. Tout le monde au même niveau avec un mode d'organisation que je te laisse imaginer. Mais quand tu as 3 mois pour relancer un site avec 20 000 références, tu peux pas travailler de manière conventionnelle. Donc en mode commando, que des chefs de projet, une organisation structure plate. On partage toutes les semaines, un point tous les mardis où pendant une heure on partage l'activité de l'entreprise, etc. Donc, moi, je me dis assez naïvement, tout ça va emporter une nouvelle culture d'entreprise, très entrepreneuriale, assez excitante, parce qu'il y a ce projet qui est très, très chouette. On est super fiers de se dire, on est en train de relancer Camif, qui est une marque emblématique, partie du patrimoine français, quoi. Donc, c'est vraiment un beau défi, un beau challenge. Là, l'open space pour pas de cloison, etc. Tout ça, ça va parler. Et ça va emporter une nouvelle culture d'entreprise. Et là, je me mange. En fait, ça va être le plus dur de changer la culture d'entreprise. Ça va être le plus long. Parce que, au bout d'un an, j'avais encore des gens des anciens Camif qui venaient me voir en me disant, mais Emery, à la Camif, on faisait comme ça. Ah ouais, mais alors, la façon dont vous travaillez à la Camif avant, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Parce que, évidemment, c'est plus rien à voir avec ce que c'était avant et c'est pas avec les usages ou les règles ou les façons de travailler du passé qu'on va inventer le futur. Donc il faut être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus créatif. Et je me suis dit donc finalement les cloisons en plâtre c'est pas le plus compliqué à abattre. Par contre les cloisons mentales et puis changer la culture d'entreprise, c'est extrêmement compliqué et c'est long. Et moi, je crois beaucoup à la force des expériences collectives. Le Covid a transformé la façon dont on travaille. On a tous basculé en télétravail, ce qui était inimaginable il y a 2-3 ans. Et donc, on sort transformé d'expériences collectives, surtout quand elles sont fortes. Et je discute, c'est grâce à la casquette artistique. Mon frère a repris une boîte que mon papa avait créée qui fait de la location d'œuvres d'art dans les entreprises. Et je lui évoque cette situation. Il m'a dit, écoute, ça pourrait être intéressant, c'est un truc que j'ai jamais réussi à vendre à aucune entreprise, mais j'aimerais te proposer d'accueillir une artiste en résidence. Et je me dis, au fond, c'est la meilleure chose à faire. Si on veut réinventer la culture, il faut convoquer la culture. Donc, on va convoquer la culture, on va convoquer une artiste qui va venir passer avec nous 3 mois dans l'open space et qui va partager notre quotidien. Alors, il me présente plusieurs artistes et là, je tombe sur Anne-Laure Maison. Il dit, c'est incroyable. Elle travaille sur l'univers de la maison. Tu vois, son patronyme la prédestinée peut-être à travailler sur ce sujet-là. Et je regarde un peu son travail, ça me plaît, je la rencontre. Il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Et je lui explique le contexte dans lequel on se trouve. Et je lui dis, écoute, tu vas avoir carte blanche, tu fais ce que tu continues ton travail. On va t'offrir le cadre de travail, c'est l'open space. On sera peut-être ta matière première. Tu vas être nourri, inspiré par ce que tu vois, ce que tu y trouves. À carte blanche. J'annonce au point du mardi qu'on va faire venir une artiste dans l'entreprise. Et alors là, c'est la consternation en général.
De quoi il nous parle?
Pourquoi il nous fait venir une artiste qu'on est tous sous l'eau avec plein de projets dans tous les sens, sur l'informatique, sur la refonte de l'offre, sur le lancement du site et tout, enfin, le relancement de tout. Là, les gens comprennent pas. Mais je pense que c'est aussi le rôle d'un dirigeant de savoir apporter une décision qui est pas comprise au début et puis finalement qui va être probablement transformatrice, même si c'est un pari hein, toujours. Et donc Anne-Laure Maison arrive la semaine d'après, elle se présente au point du mardi, elle présente son travail, notamment une très belle série un diptyque où elle fait un portrait des gens devant chez eux et puis une photo de l'intérieur d'une pièce de leur maison à l'intérieur de la maison. Et en fait, tu vois beaucoup de ressemblances entre ton apparence physique et puis la façon dont t'aménages ta pièce, voilà. Donc c'est assez intéressant. Puis elle dit pour commencer le travail avec vous, je vous propose de continuer cette série avec vous. Donc qui est ok pour vous m'inviter ce soir chez vous pour qu'on fasse la photo, évidemment.
Tout le monde lève la main.
Voilà, comme tu l'imagines. Donc avec Armelle, ma femme qui m'a suivi dans mon aventure entrepreneuriale, on lève la main parce qu'il n'y avait pas d'autres mains levées. Et on invite Anne-Laure Maison le soir à la maison. Donc elle fait une belle photo de nous avec un tas de gravats devant la maison parce que c'était en chantier aussi à Niort pour nous personnellement. Et puis une photo d'une pièce de la maison, c'était le salon. Il y avait des fils qui pendaient partout. Et la photo se retrouve le lendemain dans l'entreprise, tout le monde rigole. Et moi, ça m'a déjà beaucoup interpellé sur, au fond, quelle est la part d'intimité qu'on est prêt à partager avec des gens avec qui, pourtant, on partage 7 à 8 heures par jour.
Ouais.
Et je me dis, au fond, est-ce que les gens sont vraiment si différents que ça chez eux que au bureau? Est-ce qu'ils mettent un costume, là? Est-ce qu'ils mettent un masque? C'est grave, quoi, en fait. C'était pas ma vision, enfin bon. Et donc ça m'a interpellé, et puis finalement ils ont tous joué le jeu, ils ont tous voulu après, et donc tout le monde voulait faire sa photo. Et puis un jour, Anne leur a dit, bah écoutez, c'est bien, mais je vais pas faire la photo de tout le monde, je suis venu pour faire votre portrait. Donc moi, c'est bon, j'ai lancé mon truc. C'était très malin parce qu'Anne leur elle a su créer du lien avec les gens qui l'invitaient du coup le soir chez eux à dormir ou à dîner et qui créaient un lien fort avec elle. Et ce qui était beau, c'est que tous les jours, il se passait quelque chose dans l'entreprise. Un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc les gens sont immédiatement allés la voir en disant, mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as demandé l'avis d'Emery avant de taguer les places de parking? Bah non, je m'a donné carte blanche, donc j'ai fait ce que j'aime faire. Et donc ça a fait passer un message pour moi qui était bien. En fait, on peut prendre des décisions sans demander l'avis du boss ou du manager. Parce que juste, ça fait sens, c'est qu'on a carte blanche par rapport à la mission qu'on nous a confiée, quoi. Mmh. Et une des offres qui m'a beaucoup marqué, pour en venir à ce que tu as entendu déjà, c'est qu'en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée. On est dans le e-commerce, donc on s'envoie pas mal de mails. Et elle a eu l'idée géniale dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait et qui faisait l'effort d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux entre eux. Et progressivement, l'entreprise s'est comme ça tissée de plein de bandes roses pour nous rappeler l'importance du lien, du vrai échange. Et en fait, moi, ça a été vraiment une leçon en tant que manager, c'est que mon rôle, c'est de créer du lien. La vraie valeur d'une entreprise, la vraie richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son écosystème. Et quand je rencontre des banques, je leur dis, il y a un truc que vous voyez pas dans nos bilans. Parce que entre deux entreprises qui ont strictement le même bilan, quand il y a une crise qui arrive, il y en a une qui passe la crise, c'est celle qui a su tisser un lien fort avec tout son écosystème, parce que tout le monde aura envie qu'elle s'en sorte, et l'autre qui aura mis la pression sur les prix avec ses fournisseurs, qui aura maltraité ses salariés, le jour où il y a une crise, tout le monde s'en va, et clair. Tout le monde quitte le navire. Et pourtant, elles ont le même EBITDA, hein, donc tu le vois pas dans les bilans. Donc, tu as une valeur immatérielle considérable de l'entreprise, qui est la qualité du lien. Parce que l'entreprise, c'est un projet collectif. Et ça, ça nous a mis sur la voie de comment on nourrit le lien. Ouais. Et ben, une des choses qui est fondamentale pour nourrir le lien, c'est le sens. Et ça rejoint le travail qu'on a fait en rencontrant Armand Atuel et Blanchet Grestin en 2013.
Ah, va pas trop vite. On va effectivement.
Et cette question du sens.
Ouais, on va effectivement y arriver. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grands rituels ou les grandes pratiques de la culture d'entreprise de Camif?
D'abord, la transparence. Ça passe par le partage. Le point du mardi, c'est un rituel qu'on a instauré tout de suite et qui fonctionne très très bien. Il a pas fonctionné très bien d'ailleurs tout de suite, mais. Donc c'était un moment tous les mardis à 14h où pendant une demi-heure à une heure on partage l'activité de l'entreprise, l'actualité et où toute personne qui veut parler d'un projet peut venir le faire, proposer une idée, proposer un...
Donc là c'est toute l'entreprise ?
Toute l'entreprise, on réunit toute l'entreprise, tout le monde. Et on va loin parce qu'on partage vraiment tout, c'est-à-dire chaque mois le compte de résultat de la boîte, les EBITDA, tout le monde sait ce que c'est. Et c'est bien parce que cette transparence nous a permis quelque part d'aller assez loin sur le partage du pouvoir où en 2015 on lance le premier budget collaboratif fait par des collaborateurs volontaires qui font entièrement l'exercice budgétaire. Et qui pendant 3 mois vont aller questionner, choisir les sujets clés de la feuille de route, chiffrer tout ça, inscrire ça dans le budget, présenter le budget à toute l'entreprise, présenter le budget aux actionnaires. Et ça c'est possible parce que même Fabienne qui est au service après-vente, elle sait ce que c'est que l'EBITDA. Sinon elle pourrait pas le faire. Donc c'est un rituel qui est très fort, qui fait vraiment partie de la culture d'entreprise. Comme je disais, il a pas marché tout de suite. Très bien, parce que au début, c'est moi qui l'animais, et puis au bout d'un an et demi ou 2 ans, je voyais bien que l'intérêt était déclinant, et je me dis, bon, il y a un problème, et puis ça me pesait vraiment, parce que c'est du temps à préparer, ouais, etc. Et du coup, j'ai dit, moi je tiens à ce qu'on ait un moment de partage, parce que je pense que c'est important qu'on partage chaque semaine la vie de l'entreprise, au fond, qu'est-ce qui s'est passé d'important, mais je voyais bien que ça marchait pas et qu'il y avait une attention qui baissait et du coup il y a eu 5 personnes qui sont portées volontaires pour réinventer le point du mardi et en faire quelque chose qui intéressait plus les collaborateurs et donc ils sont revenus vers moi en me disant en fait c'est pas à toi de l'animer ce point, c'est à nous. Et en fait on va pas passer plein de chiffres on va donner un chiffre parce que c'est bien de donner un peu la température, le baromètre et tout ça, mais on va parler des projets, voilà, on va faire un truc très participatif. Donc là maintenant depuis 2012 je crois à peu près, chaque semaine, on tire au sort celui qui va animer le point du mardi suivant, ce qui lui laisse une semaine pour se préparer à sa prise de parole en public. Et puis, toute personne qui veut contribuer peut le faire à ce moment-là. C'est aussi une façon de faire, de présenter aussi les métiers de l'entreprise. Chaque animateur a un moment pour lui, pour parler de ce qu'il fait. Voilà. Et donc c'est un rituel et une culture qui est vraiment au centre de notre culture d'entreprise. Très important.
Alors et après évidemment Camille porte depuis très longtemps et on en a déjà pas mal parlé les enjeux du durable, de l'éthique. Et comment ça se retranscrit ça aussi dans la culture de l'entreprise?
Là aussi, ça s'est construit avec le temps et ça a été co-construit avec les collaborateurs. Donc cette démarche sur la mission a été co-construite. On en parlera tout à l'heure, je crois.
On va en parler.
Mais c'est important parce qu'en fait, c'est quand même un peu central, c'est un peu la colonne vertébrale. C'est-à-dire que l'éthique, c'est dès que tu t'écartes de ce que tu dis, il y a un sujet d'éthique, en fait, parce qu'il y a un sujet d'adhésion et on voit bien qu'il y a un problème d'alignement. Donc ça nécessite qu'on réajuste, on se réajuste, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont quand même liées à la mission, qui est vraiment centrale et qui est renforcée aujourd'hui par le fait que nos jeunes collaborateurs nous rejoignent pour ça, précisément pour l'engagement, sur notre engagement sur la consommation responsable, sur le Made in France, parce que ça leur parle individuellement. Et donc, ils se disent, c'est chouette, je vais pouvoir travailler dans une boîte qui me parle et je vais pouvoir contribuer dans cette entreprise à m'engager sur des sujets qui font sens pour moi. Que te dire d'autre?
Non, mais on va revenir.
Tellement lié, si tu veux, à la mission que c'est.
À la mission, alors avant qu'on passe à la mission, parce que c'est un sujet assez central, effectivement, sur l'évolution de Camif, et c'est un petit peu quand même une des raisons pour lesquelles tu es là aussi. Mais il y a deux petites choses que je voulais voir avec toi sur la partie communication et positionnement de marque aussi. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, dans une reprise, ou dans une fusion, c'est le plus gros qui l'emporte, c'est la plus grosse marque qui l'emporte, ou c'est celui qui rachète qui l'emporte, c'est surtout celui qui rachète qui l'emporte. Là, aujourd'hui, je pense que ceux qui nous écoutent se disent « Ma telle somme !» Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi aujourd'hui, enfin, c'est presque cette disparition progressive de la marque de Matelsom au profit de Camif, parce qu'aujourd'hui tu te présentes plus jamais comme PDG de Camif Matelsom, ce qui était le cas à une époque, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et toi, comment tu l'as vécu en tant que fondateur de Matelsom, parce que c'est quand même ton bébé, t'as passé quand même de nombreuses années avant de reprendre la Camif. Comment t'as vécu cette disparition progressive?
Très bien. mais vraiment très bien, parce que c'est ce que je disais, l'entreprise c'est un organisme vivant, donc on s'adapte en permanence. Et puis ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je faisais il y a 10 ou 20 ans, ça a tellement changé que mais dans une sorte de continuité et de fil conducteur qui m'a construit, qui m'a aligné, qui fait vraiment sens. Donc moi j'ai démarré avec effectivement en 95 j'avais envie de monter ma boîte, je savais pas trop dans quoi. J'ai passé 2 ans à New York, j'ai trouvé l'idée de Matelsom à New York. C'était une boîte qui s'appelait, qui vendait des matelas par téléphone, One Eternode Mattress. Je lance ça en 95. On a été hyper précurseur sur le e-commerce parce que on s'est créé, Google n'existait pas encore, Matelsom.com. Bon voilà, on s'est développé. On s'est développé en faisant des erreurs, en apprenant de nos échecs, notamment le développement en Angleterre qui n'a pas fonctionné. On a quand même resté 5 ans, on a essayé de persévérer, mais bon, on n'a pas trouvé de modèle rentable, il y avait peu de synergie. Bon, donc on dit ok, le développement de Matelsom, ça sera en France. On a essayé de vendre du meuble sur Internet, on a racheté un site qui, après l'éclatement de la bulle Internet en 2003, je crois, meuble.com. On se dit on va se développer en France, mais sur un marché beaucoup plus gros que la literie, parce que Matelsom c'est un spécialiste de literie, marché 10 fois plus gros. Puis en fait, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en 2003, il n'y avait pas le haut débit, donc toutes les petites photos détourées dans une liste, c'est pas ça qui fait passer l'envie d'acheter un joli canapé, donc c'était compliqué. Puis, même si c'était très bien référencé dans Google, Mup.com, il n'y avait pas de marque, en fait. Donc, il n'y avait pas de positionnement. Et donc, on était vraiment dans cette logique du volume, du prix toujours plus bas. Parce qu'en plus, avec les comparateurs de prix qui se développaient beaucoup, c'était compliqué. Et puis arrive l'opportunité pour moi, Camif. Et là, je me dis, mais c'est incroyable, parce que finalement, là, on a une marque qui est très forte, qui est installée, qui veut dire quelque chose. On peut entièrement revoir le modèle et mettre à profit tout ce que j'ai appris sur le e-commerce, avec une marque qui bénéficie d'un attachement très fort de ses clients. Bon, bah, on relance Camif. Et puis, pour une petite boîte, on reste une petite structure. On est 90 personnes, on fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas un truc énorme. D'avoir plusieurs marques, c'est coûteux, parce que, tu vois. Donc, progressivement, on voit le développement de Camif qui a tiré vraiment la croissance de la société. Et Camif est devenu plus gros, même en achat de literie, beaucoup plus gros que Mattelsum. Bon, bah, donc à un moment donné, tu te dis, bah, finalement, est-ce que je garde les deux? Et puis, bah, l'année dernière, on a fait un gros projet, un gros investissement pour refondre la plateforme e-commerce de Camif, parce que on le savait déjà, la troisième refonte, mais ça va vite dans le e-commerce. Donc, et on se dit, est-ce qu'on refait aussi la plateforme de Mattelsum, parce que voilà. Et le projet, on se dit, bah, ça vaut pas la peine, donc on va mettre tous les flux Mattelsum.com vers Camif.fr sur la page Litry, c'est ce qu'on a fait. Et officiellement, bah, c'était la dissipation. Mais tu vois, je pense que la vie d'une entreprise, c'est comme ça. Il faut savoir sauter d'une branche à l'autre, parce qu'à un moment donné, la branche qui t'a porté, qui t'a construit, il y en a une meilleure ailleurs. Et puis voilà. Et ça fait sens, en fait. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Camif, c'est totalement aligné avec la vision qu'on a du rôle de l'entreprise. C'est porteur de valeurs très fortes, c'est très pionnier. Donc il y a plein de choses dans Mattelsum qu'on retrouve dans Camif aujourd'hui. Le caractère pionnier, c'est un truc que j'avais en 95. Et donc c'est ça, l'audace que j'avais avec Mattelsum. Je la retrouve tout à fait chez Camif, donc je me retrouve pleinement chez Camif. Et voilà. Et donc ce Camif, l'avenir de l'entreprise. Donc aujourd'hui, oui, c'est Camif.fr.
Point barre. Ouais.
Et j'ai pas de nostalgie. Je regrette rien du tout de tout ce qu'on a fait. Et c'est effectivement grâce à Mattelsum qu'on a pu relancer Camif. Sans Mattelsum, on relançait pas Camif. Parce que en 3 mois relancer un site e-commerce, si t'as pas une structure de base où tu peux, c'était pas possible.
C'était pas possible. Non.
Avant de passer à la fin de l'épisode, j'ai une petite faveur à vous demander. Alors oui, je sais, c'est un petit truc en plus, mais c'est vraiment important pour me soutenir. Si vous croyez dans ce podcast, j'aurais besoin que vous le notiez sur votre plateforme d'écoute, surtout si c'est Apple Podcast ou Spotify. Nous sommes dans un système, heureusement ou malheureusement, où les bonnes notes facilitent un bon référencement. Et sur Apple Podcast, un petit commentaire est toujours un encouragement. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. C'est un autre moyen de montrer que ce podcast fait sens pour vous. Je laisse place à la fin de l'épisode.
Alors tu viens d'expliquer effectivement que le positionnement de longue date a été sur le développement durable, un positionnement engagé, etc. J'aimerais qu'on écoute la toute première pub télé de Camif, donc qui date de 2013, donc ça fait 10 ans maintenant. Et tu nous diras ce que t'en penses plus tard, et surtout un petit peu l'évolution de la communication.
Cette femme fait bien plus que dormir. Elle sauve des emplois. Achetez des meubles fabriqués en France sur Camif.fr. Camif.fr, changeons le monde de l'intérieur.
10 ans plus tard, qu'est-ce que t'en penses de cette pub et est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu te dis en la regardant?
Je me dis que c'est super actuel. Non mais avec la crise qu'on traverse avec la crise Covid qu'on a traversée, avec la crise qu'on traverse sur l'inflation ces matières premières, on se rend compte de la fragilité de tout cet écosystème du Made in France, des fabricants locaux, et en même temps l'importance d'avoir encore des fabricants locaux. Parce que tu vois, dans notre marché, il y a eu des faillites importantes, récemment celle de Made.com, qui est un modèle qui dépendait du grand import, qui s'est pris juste un impact de 60 millions d'euros dans ses comptes à cause de l'augmentation du fret et qui a pris l'augmentation des matières premières comme nous et qui a pas survécu. Et là, on voit la résilience du modèle du local, tu vois, de la production locale et la pertinence des choix qu'on a fait dès 2009 de miser sur ça. Et je pense que là, à travers cette campagne publicitaire, qui était effectivement notre première campagne de pub télé, on a voulu interpeller, parce que qui a la clé de tout ça, c'est le consommateur, qui, avec sa carte bleue, il va voter chaque jour pour un modèle de société. Et aujourd'hui, on dit, en fait, avec votre pouvoir d'achat, vous avez le pouvoir de changer le monde. Voilà, de l'intérieur. C'est un petit clin d'œil de la signature de Calife, qui existe depuis 2009. Et je trouve intéressant de montrer que finalement, Camif, à travers son engagement sur la fabrication française, sur les produits de qualité durable, bah, on peut changer le monde de l'intérieur. On a un acteur qui a contribué à travers un modèle d'impact positif qu'on a mis dès 2009 en place, parce qu'on a pris conscience en 2009, bah, justement, de la fragilité et de d'une entreprise et de l'impact d'une entreprise quand elle disparaît. Quand une entreprise disparaît, c'était très fort à Niort, hein, parce que c'est une ville de 60 000 habitants, c'est une petite ville, et t'as 568 personnes qui ont perdu leur job du jour au lendemain, donc 568 familles qui se sont retrouvées sans emploi du jour au lendemain dans une ville de 60 000 habitants.
C'est énorme.
C'est énorme. C'était un choc, c'était un traumatisme. Et j'en n'y croyais pas, quoi. Et je parle même pas de tout l'écosystème de fournisseurs qui avaient perdu de l'argent. Donc c'est un drame, en fait, une fermeture d'entreprise. Et des drames, malheureusement, moi j'en ai vu beaucoup. Des petites boîtes, des boîtes familiales, et qui ont jamais fait la une des journaux. Parce que quand t'as une boîte qui disparaît à 50 personnes ou 100 personnes, personne n'en parle.
Pas,
chute de Camif, on en a beaucoup parlé. Mais on peut l'éviter. Juste, on peut faire quelque chose qui fait à la fois du bien pour l'économie locale, mais aussi pour la planète. Aujourd'hui, on sait que le bilan carbone de chaque Français, c'est 9,9 tonnes par an et par Français. 55% de ce bilan carbone dépend de nos importations. Juste en relocalisant nos achats, bah, on peut réduire significativement son empreinte carbone. Pourquoi on le fait pas? Et là, pendant la crise Covid, on en a pris conscience. Et ça a été un moment très fort pour nous, une croissance très forte pendant cette crise, parce que davantage de consommateurs se sont dit, au fond, dépendre de la Chine pour le Doliprane, c'est quand même con, quoi. Dépendre... Et qui est le pire ennemi, qui est le pire contributeur, finalement, du carbone, c'est quoi? C'est deux choses très simples à comprendre, c'est du bon sens. Le poids d'un produit et le nombre de kilomètres qu'il parcourt. Plus un produit est lourd, volumineux, et plus il parcourt de kilomètres, plus c'est catastrophe. Donc là, on est typiquement dans un produit, la literie, le meuble, le canapé, qui est lourd, qui est volumineux. Il faut surtout pas que ça vienne de très loin. D'ailleurs, c'est une des premières campagnes de pub presse avant cette campagne télé. C'était un Draouz qui a fait 3240 kilomètres pour arriver chez vous. C'est une vraie connerie. Un Draouz qui vient de Cambrai, même pas une bêtise. Petit clin d'œil au Cambrésien.
J'espère que tout le monde l'a quand même.
Et ben, voilà, c'est ça. Donc c'est... Finalement, interpeller le consommateur sur le pouvoir qu'il a et lui dire qu'il y a des solutions qui sont là. Et c'est ça qui est...
C'est justement, donc tu parles beaucoup de ces aspects-là, de communiquer aussi auprès des consommateurs. Et on est dans une phase aujourd'hui où il y a de plus en plus d'attaques aussi contre le greenwashing, contre le social washing, purpose washing, enfin pour tous les washing possibles et imaginables. Comment vous avez réussi au sein de Camif à marcher cette ligne de crête entre le trop militant presque, et certains pourraient dire oui mais bon vous faites pas suffisamment ci ou suffisamment ça, et le non mais on peut pas trop communiquer quand même parce qu'on pourrait se faire éventuellement attaquer si on a une position trop militante, parce que c'est une vraie question en fait que beaucoup d'entreprises se posent et elles n'osent pas trop communiquer par peur d'eux.
En fait moi je crois que la meilleure façon de faire c'est d'être très transparent. Donc nous dans la fiche produit Camif on sait d'où vient le produit mais on sait aussi d'où viennent les composants. Et on voit que bah tiens pour tel produit le composant il a fait 1500 km parce qu'il vient d'Espagne, il n'est pas fabriqué en France. OK, et c'est un composant, ça peut être le tissu par exemple d'un canapé. Mais c'est pas grave en fait, juste il faut le dire, nous ne sommes pas parfaits. Mais donc par contre un produit la mousse issue du recyclage, bah voilà, on le dit et pourquoi on le cacherait. Alors parfois il y a des gens qui disent même de nos équipes qui disaient, ah oui, mais si on dit que c'est quand même fabriqué par tel vieux matelas recyclé, c'est moche, quoi. Enfin, ça peut faire peur pour certains, ça peut même, oui, en fait, peut-être, mais il y en a peut-être pour qui ça va parler, quoi. La transparence qu'on a sur l'origine de fabrication, c'est vraiment une marque de fabrique. On est les seuls à aller aussi loin. Pourquoi? Parce qu'on est seuls qui sommes capables d'aller aussi loin. L'année dernière, enfin en 2021, en juin 2021, on a coupé tous les produits qui venaient de en dehors d'Europe, de grand import. C'était un renoncement assez fort, c'était 7,4% de notre offre. Donc aujourd'hui, on affiche le lieu de fabrication de tous nos produits, mais comme avant d'ailleurs. Mais un distributeur lambda qui fait 80% de son offre qui vient de très loin. Même quand il a des produits Made in France, il a peut-être pas intérêt d'afficher le produit Made in France, parce qu'il va devoir afficher sur 80% de son offre les produits Made in China. Ça va faire beaucoup de rouge sur le site. nous, on peut se permettre, parce qu'on a un modèle qui est allé assez loin sur l'impact positif sur la consommation responsable, sur la production locale, on peut se permettre d'aller loin aussi sur la transparence. C'est une arme pour nous. Pour nous différencier de ce qui se fait ailleurs. Et je le vois sur les pratiques de notre écosystème, de nos concurrents, elles sont en train d'évoluer. Et si on est copié, tant mieux, je veux dire. C'est très bien. Ouais. Hein. Après, je vois aussi beaucoup de tentatives de greenwashing. Quand on te parle d'éco-conception, mais que les produits viennent d'Asie, franchement, moi, ça me fait rigoler. Parce que ce qui est... alors oui, il y a tous les labels. Hein, le bois FSC, ouais. Le truc, machin... Ouais, mais attends, le produit, t'as vu combien de kilomètres il a parcouru? Et c'est un produit lourd, donc là, l'impact carbone, il est monstrueux. Ça, on te le dit pas. Bon.
donc, on te dit que le bois, il est labellisé.
Et nous, voilà. Alors là, maintenant, nous, on travaille avec des fabricants, par exemple les Ads du Hameau à Pau, qui est un de nos premiers fournisseurs de lits, qui fabrique des lits en pain massif, et le pain, il vient des Landes, à 70 kilomètres, je crois, de l'usine. Les adieux, il dit ouais, mais là je vais pas me payer PEFC parce que ça coûte cher, c'est des labels, hein, ça coûte cher. Par contre, nous, le fournisseur, l'exploitant forestier, on le connaît. On a été le visiter. Mmh. Hein. Et puis on sait qu'il gère pas sa forêt n'importe comment. C'est dans les Landes et c'est en France. Hein. Donc, nous, on affiche forêt gérée durablement. Alors ça, on peut plus le faire maintenant. Non. Donc là, on est en train de revoir aussi pas mal de choses qu'on dit, qu'on ne peut plus dire. Ça nous va très bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la forêt, c'est le pain des Landes et c'est Monsieur Machin qui exploite son pain des Landes. Et moi, j'ai beaucoup plus confiance dans Monsieur Machin qui exploite le pain des Landes plutôt que le label FSC qui est à l'autre bout de la planète. Mmh. Voilà. Donc, je pense que le consommateur... J'espère aussi que le consommateur il décrypte de mieux en mieux hein, ces tentatives de greenwashing. Petit, oui. Mais j'avoue que on est face à des acteurs qui ont beaucoup de moyens et c'est probablement une des menaces pour Camif, c'est d'avoir des acteurs très gros qui vont communiquer massivement sur des arguments véridiques, hein, un label PEFC ou un label FSC, voilà, mais qui n'a aucune valeur en fait. Et puis ils vont pas hésiter à mettre en avant le produit français du catalogue qui représente peut-être
0,3% du
même 5% ou même 10% du catalogue. Quand nous c'est 78% de notre offre et de notre chiffre d'affaires. Enfin 75% de notre offre et 78% de notre chiffre d'affaires. Donc moi ça me fait plus peur ça. Mais je pense que les dernières la loi climat, la vigilance sur ces allégations environnementales, ça va quand même faire du bien. Et qu'on a un devoir d'exemplarité là-dessus. Mais ma meilleure arme, la transparence.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je le disais, n'hésitez pas à laisser quelques étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify, notamment sur smartphone. Ça monte jusqu'à 5. Par ailleurs, si vous connaissez des invités qui pourraient être intéressants pour le podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou directement par email à l'adresse vivien@lamachineasens.fr. C'est tout pour cet épisode, je vous laisse découvrir les anciens et ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode.